Session de théologie à Rimont, le 3 novembre 1991. 14e cours, 14h30. Père Marie-Dominique Philippe, le Christ.
Personne. Je ne peux pas le montrer. Je peux simplement montrer que c'est... Ce n'est pas impossible. Pas contradictoire. Un et trois, on est trois dans l'un. C'est pas contradictoire parce qu'on est en face d'une nature spirituelle infinie. Alors qui peut, de fait, subsister dans trois personnes, être dans trois personnes. La nature est au niveau de la vie, oui. La personne au niveau de l'être, le comment de l'être. Y a-t-il trois êtres ? Ou alors est-ce trois manières d'être différentes du même être ? C'est plus que trois manières différentes. Et ça a été soutenu, ça, par certains, vous voyez. Certains disent que c'est trois manières d'être, trois modalités d'être, la Trinité. L'Église a condamné. C'est trois personnes. Et la personne touche l'être. Ça, c'est très juste. Mais on est devant un mystère qui nous dépasse complètement. Alors, ce qui est important, c'est de bien saisir ce que l'Église... gardienne de la vérité à travers les conciles a précisé unité absolue de nature dans la pure simplicité. Dieu est absolument simple. Omnino simplex, dira saint Thomas. D'une simplicité absolue. Aucune composition. Et dans la fécondité de la vie, il y a distinction des personnes. On ne dit pas séparation, on dit distinction des personnes. Il y a trois personnes distinctes dans l'unité. Vous voyez ? Alors, c'est sûr, il y a le plan de la vie, il y a le plan de l'être, je suis d'accord. Mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça, vous voyez. Jamais vu. Je ne le verrai jamais, sauf quand je verrai Dieu. Et je dirai à ce moment-là, oh, quelle simplicité. L'être le plus simple qui soit implique cette perfection, cette plénitude. C'est la simplicité la plus absolue que ça. C'est ça qui est merveilleux. Et je crois que c'est ça qu'il faut contempler. Grand mystère de la fécondité révélé par Jésus. Et le mystère du Christ est tout à fait différent. La personne du Verbe qui assume la nature humaine. Une nature humaine parfaitement individualisée. Mais une personne humaine qui n'a pas sa personne, sa subsistance. Cette nature humaine du Christ subsiste dans le Verbe. Donc elle existe dans le Verbe. C'est pour ça que pour saint Thomas, il n'y a pas deux êtres, il y a un seul être dans le Christ, et il y a deux natures. On est là, en face de deux mystères, je ne dis pas complémentaires, parce que rien n'est complémentaire à la très sainte Trinité. La très sainte Trinité est un absolu, absolu, au carré. Mais le mystère du Verbe le mystère du Christ nous manifeste une porte. C'est comme une brèche dans le mystère de la très sainte Trinité par la personne du Christ qui nous est donnée. Et par la personne du Verbe, nous vivons ce mystère du Fils tout entier relatif au Père. Tout entier tourné vers le Père. Et le Verbe est devenu chair. Le Verbe en lui-même n'a pas changé. Il est resté le même. Mais il a assumé la nature humaine. C'est la nature humaine du Christ qui est changée. Et dans la nature humaine du Christ, l'âme est créée. Il y a un acte créateur de Dieu. L'âme du Christ. Il faut toujours bien distinguer dans le Christ son corps, son âme, sa divinité. Il est Dieu, comme Verbe. C'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, la caractéristique de la nature humaine, c'est qu'il y a une âme spirituelle dans un corps. Et la première manifestation de l'esprit dans le corps, c'est le sourire. Quelle est la caractéristique du Christ ? Unité de personne, de nature. Quelle est la caractéristique du Christ ? Jésus a connu aussi, comme tous les enfants, un premier sourire pour Marie. La nature humaine du Christ est parfaite. Et ce sourire, c'était le sourire de Dieu pour Marie. Tous les actes du Christ sont humains et divins. Quand Jésus dit « j'ai soif », il exprime ce qu'il y a de plus profond dans son cœur d'homme, sa soif d'aller jusqu'au bout, d'aimer. Son amour est quasi infini. Jésus a soif que nous l'aimions. Donc c'est un appel à la fois humain qui traduit le désir intense de son cœur et en même temps divin. C'est Dieu qui s'étant fait homme, traduit pour nous cette soif que nous l'aimions. Comme quand il a dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. C'était à la fois l'homme et Dieu. Alors c'est ça que nous allons essayer de comprendre maintenant. Parce que ça nous aide à lire l'Écriture, ça. Ça nous aide à comprendre l'Évangile. Donc, je vous ai amené ça pour que je vous donne exactement la formule du Concile de Constantinople. Parce que ça, c'est quand même toute notre foi chrétienne. Quand saint Thomas se pose la question... de toute cette question sur l'union hypostatique. Voici ce que nous dit saint pas la même signification que le mot nature. Donc distinguons bien la signification de la nature, la signification de la personne. Ce mot nature désigne l'essence qui spécifie un être et que la définition exprime. La définition exprime la nature d'un être. Et la nature d'un être, c'est les éléments essentiels qui constituent cet être et qui lui donnent son caractère spécifique. Si rien d'autre ne pouvait venir s'adjoindre dans un être aux éléments spécifiques, nul besoin ne serait de distinguer la nature de son suppôt. Suppôt, c'est l'individu, c'est la personne. Celui-ci étant précisément l'individu subsistant dans la nature. Tout individu subsistant dans une nature quelconque serait identique à celle-ci. Mais il arrive que dans certaines réalités subsistantes, l'on trouve des éléments qui n'appartiennent pas à sa nature, comme les accidents, les principes individuants. Mais si quelqu'un pèse, par exemple, 100 kilos, ça n'appartient pas à sa nature. C'est accidentel. Ce qui peut faire aller vers une petite session de bonne santé, de jeûne carabiné, et au bout d'un certain temps, il ressortira de là ayant la même nature. Mais il aura abandonné 30 kilos. Vous savez, cette fameuse histoire des charismes. Mais c'était au Texas. Saint-Esprit ne parle pas de la même façon au Texas et en France. C'est quelqu'un qui l'a vu. Puisque c'est mon neveu, mon beau-neveu, qui l'a vu, qui est du Texas. Il m'a dit, il m'a posé la colle. Comment expliquez-vous ça? Réunion charismatique protestant et catholique. Quelqu'un s'est senti poussé par l'Esprit Saint pour guérir. C'était une protestante. Arrête, c'est mis dans le cœur. Dit que tous ceux qui sont malades viennent, s'approchent. Alors on a vu une longue queue, vous comprenez bien. Puis tout le monde a regardé le dernier. C'était un petit, très, très gros. Vraiment, paraît-il, moi je n'ai pas vu, mais petit tonneau. Alors oui, tout le monde allait se demander ce qui allait se passer, n'est-ce pas, oui. Là, elle a levé les mains, elle fait ça pour chacun. Tombé par terre, et il se relevait, guéri. Tu vois, il disait qu'il était guéri. Alors l'autre arrive, fait les mains, tombe par terre. Il se relève. 30 kilos en moins. Alors il m'a dit, est-ce que c'est un prodige ou un miracle? J'ai dit, écoutez, moi je peux rien dire. Je peux pas te dire si c'est un prodige ou un miracle. Il faudrait voir. D'abord, il faudrait voir exactement comment ça s'est passé. Et c'est pour montrer l'individu, vous voyez. Parce qu'il avait la même nature, avant et après. C'était le même homme. Mais l'individu avait changé. Depuis le berceau, on a changé. Alors c'est la même nature. Depuis le premier instant de ma conception biologique, j'ai le même chiffre biologique. Et puis j'ai changé quand même, du moins. J'espère pour le berceau. L'individu change, la nature est restée la même. C'est pour faire comprendre la différence entre nature et individu, et personne. Mais il arrive que dans certaines réalités subsistantes, l'on trouve des éléments qui n'appartiennent pas à la nature, à l'essence, comme les accidents, les principes individuants, la quantité. Et cela apparaît surtout dans les êtres composés de matière et de forme. Dans ces réalités, par conséquent, la nature et le suppôt concret diffèrent réellement l'un de l'autre, non pas sans doute comme des éléments complètement séparés, la nature certains autres éléments qui n'appartiennent pas au constitutif de l'espèce. Aussi, le supplément apparaît-il comme un tout dont la nature est la partie déterminante, la partie perfective. Et de là vient que dans les composés de matière et de forme, on n'attribue pas la nature au suppôt, mais on ne dit pas en effet cet homme et son humanité. Je ne suis pas la nature humaine, puisque à côté de moi il y a quelqu'un qui pourrait dire la même chose. Je participe à la nature humaine, tandis que je suis mon être individuel. Personne n'a le même chiffre biologique que moi. C'est mon originalité, ça. Et chacun d'entre nous, on peut dire ça. C'est notre originalité. Il n'y a pas deux feuilles semblables. Dans la nature, il n'y a pas deux individus semblables. C'est extraordinaire, tu vois ça. Et pourtant, on a tous la même nature humaine. S'il se trouve, au contraire, une réalité en laquelle il n'y a rien que son essence ou sa nature, comme il arrive pour Dieu, nous n'aurons pas dans ce cas de distinction réelle entre suppôt et nature. Dieu est absolument simple. Mais seulement une distinction purement notionnelle de l'intelligence. Cette réalité sera dite nature parce qu'elle représente une certaine essence. Elle est principe d'opération caractéristique. Elle sera dite suppôt parce qu'elle est une nature subsistante, individuant, individuée. Ce que nous disons du suppôt, il faut l'entendre aussi à propos de la créature raisonnable, rationnelle, qu'on appelle personne. Donc la personne, c'est le suppôt dans une nature rationnelle. Car la personne n'est pas autre chose, au dire de Boès, que la substance individuelle d'une nature rationnelle. C'est toujours cette définition-là que prendra saint Thomas à Boès. Une substance individuelle dans une nature rationnelle. Saint Thomas ne maintiendra pas cela tout le temps. Il dit ça au début. Et dans le De Potentia, qui est plus tardif, saint Thomas donnera une définition de la personne beaucoup plus forte et beaucoup plus métaphysique. Parce que celle de Boès est assez logique. Alors il prendra une définition beaucoup plus forte. Il dira que c'est la subsistance. Il considérera que la personne, c'est la réalité la plus digne, métaphysiquement parlant. L'expérience de la réalité la plus parfaite que j'ai, c'est la personne. Donc, c'est le sommet de la métaphysique au niveau d'expérience. C'est le pose, la manière d'être de la réalité. Et d'une réalité spirituelle. Tout ce qui se trouve dans un être personnel, que cela appartienne en propre à sa nature ou non, lui est donc uni dans la personne. En conséquence, si la nature humaine n'est pas unie dans la personne au Verbe de Dieu, elle ne lui est unie d'aucune façon. Et du coup, disparaît entièrement notre foi à l'incarnation. C'est toute la foi chrétienne qui est ruinée. Bref, puisque le Verbe possède une nature humaine qui lui est unie, puisque d'autre part, cette nature n'apparaît pas de soi, n'appartient pas de soi à la nature divine. Il s'ensuit que l'union se fait dans la personne du Verbe et non dans la nature. Donc vous voyez, saint Thomas ne prouve pas, mais montre négativement, ça ne peut pas être autrement, vu ce que dit le Concile. Ils sont unis dans la personne du Verbe. Nature divine, forcément, puisque le Verbe implique la nature divine. Et la nature humaine est assumée par le Verbe. Je ne peux pas comprendre, mais je peux saisir que ce n'est pas contradictoire, puisque la personne du Verbe est infinie. Alors, elle peut faire subsister la nature divine et la nature humaine. Je n'insiste pas plus. Hein. Je vois l'essentiel avec vous. Ce qui est maintenant plus facile pour nous à comprendre, c'est que, de fait, la nature humaine et la nature divine sont l'une et l'autre source d'opérations vitales. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Donc, il y a les deux natures. Donc, il y a deux principes d'opérations vitales. Le verbe dans la nature divine est Dieu. Alors, quelle est l'opération propre du verbe dans le mystère du Christ? C'est d'être le Fils bien-aimé du Père et de vivre la même contemplation que le Père. Il a la même vie éternelle. Il est éternel. Une vie éternelle. Une contemplation. La contemplation. Vous savez, la manière dont Aristote précisait la vie de Dieu, la pensée de la pensée, c'est-à-dire la contemplation de la contemplation. Dieu ne peut que se contempler. Et le Verbe et le Père se contemplent dans l'unité. Et l'Esprit Saint et le Père et le Verbe ont la même vie contemplative. La vie de Dieu ne peut être qu'une vie contemplative. Mais quand Dieu crée, alors là, il y a une opération qui est le fruit de sa contemplation, qui n'est plus une contemplation. Analogiquement, le travail de Dieu. Parce qu'au sens strict, Dieu ne travaille pas. Parce que le travail, c'est parce qu'on modifie une matière. Alors, on élabore à partir d'une matière. Dieu crée à partir de rien. Donc, c'est un pur don. Mais quelque chose qui est extérieur à lui. Tandis que dans sa contemplation, il se contemple de toute éternité. Et puis, il y a la nature humaine. La nature humaine du Christ est principe d'opération vitale. Des opérations qui sont semblables aux nôtres, c'est-à-dire amour, le Christ, dans son cœur, mystère de la croix. pour accomplir en plénitude l'acte de la croix. Jésus réalise cet acte dans sa nature humaine, puisqu'il offre sa vie terrestre au Père. Seule l'âme du Christ pouvait offrir sa vie au Père. Ça, c'est sûr. Donc, c'est l'acte le plus caractéristique du mystère de Jésus. Il est venu pour adorer le Père. Et pour que l'adoration soit plénière, elle se réalise dans un holocauste. Et l'holocauste le plus parfait, c'est d'offrir la victime la plus parfaite. Et la victime la plus parfaite, c'est Jésus lui-même. C'est sa vie. Aucune vie n'a été aussi parfaite sur notre terre que la vie du Christ. Notre petite terre a porté Dieu. Et c'est sur notre terre, à Nazareth, à Jérusalem, c'est une chose qui est de très impressionnant. Quand on va à Nazareth, quand on va à Bethléem, quand on va à Jérusalem, c'est dire que cette terre a porté, ce lieu a porté Jésus, Dieu, le Fils de Dieu. Et Jésus, quand il est mort à la croix, c'est une opération éminemment humaine. Alors, comprenons. On analyse, hein, je suis en théologie scientifique, j'analyse. Je dis, dans le mystère de la nature humaine du Christ, il y a un corps formé par Marie. Il y a donc un chiffre biologique du Christ. Qu'on pourrait savoir charismatiquement. Puisqu'il y a eu des miracles. Il y a un chiffre biologique. Sur Marie. Et pour le Christ, dès sa conception, il y a eu l'âme créée par Dieu, l'âme humaine, l'âme spirituelle créée par Dieu. Tout de suite. Parce que cette nature humaine existe dans le Verbe. C'est dans le Verbe que Marie conçoit l'humanité sainte. La nature humaine du Christ est portée par sa mère et elle est portée par le Verbe de Dieu. Elle est assumée de deux façons tout à fait différentes. D'une manière, dans l'ordre de l'être par rapport au Verbe, et dans l'ordre de la vie par rapport à sa nature humaine, par rapport à Marie. Il y a deux sources. Deux sources de vie et une source d'être. Donc la nature humaine du Christ, le corps formé en Marie et l'âme créée par Dieu, cette âme spirituelle. Cette âme spirituelle qui anime le corps et qui en même temps, étant spirituelle comme toute âme humaine, est immatérielle. Dans son sommet, dans la partie la plus intérieure de l'âme, la plus profonde. Cette âme est liée, elle subsiste dans le Verbe. Et parce qu'elle subsiste dans le Verbe, elle est proche de la source principale de la grâce. Cette âme du Christ reçoit du Verbe de Dieu et du Père et de l'Esprit Saint, de la très sainte Trinité. Il reçoit la plénitude de grâce. Dans l'âme du Christ, il y a la plénitude de grâce qu'il reçoit directement du Verbe de Dieu. voyez, au point de vue biologique, premier instant de la conception. Et ce premier instant de la conception est divin. Il est Dieu. Premier instant de la conception est porté en Dieu. Et l'âme humaine du Christ est présente avec la plénitude de la grâce. Et saint Thomas donne ce petit raisonnement très simple. Plus on est proche de la source, plus on reçoit. On est tout proche du feu, feu de bois. On a plus chaud que si on est loin. C'est une évidence. Eh bien, l'âme du Christ est proche de la source de toute chaleur, de tout amour, de toute lumière, de toute grâce. Puisqu'elle est dans le Verbe. Elle subsiste dans le Verbe. Subsister, ça veut dire sa manière d'exister. Elle est dans le Verbe. Unie personnellement au Verbe. Donc elle reçoit la plénitude de grâce dès le premier instant. Ça, c'est deux fois. Pas dire le contraire, parce que ce serait plus le mystère de l'incarnation. Ça, c'est une conclusion théologique, mais liée directement au mystère de l'union hypostatique. Alors, pour saint Thomas, cette plénitude de grâce reçue dans son âme spirituelle sanctifie tout de suite l'âme du Christ. On est sanctifié par la grâce sanctifiante. Et s'il s'agit de la grâce sanctifiante, ce qu'on appelle la grâce habituelle, dans l'âme du Christ, il y a la plénitude de cette grâce sanctifiante. Son âme est sainte et son âme sanctifie son corps. Donc il est sanctifié dès le premier instant de sa conception. Et on touche là tout de suite les deux saintetés. La sainteté du Verbe et la sainteté de la nature humaine. Cette plénitude de grâce du Christ, puisque elle est parfaite, quasi infinie. C'est l'expression que prendra saint Thomas. Quasi infinie. Y avoir de grâce plus parfaite que celle-là. Parce qu'on ne peut pas être plus uni à Dieu que de subsister dans le Verbe. Ça, c'est là le mystère même de la nature humaine du Christ. Par le fait même, cette plénitude de grâce quasi infinie, elle atteint tout de suite sa perfection. Perfection absolue. Elle ne peut pas grandir. Elle atteint donc tout de suite son terme. Le terme de la grâce, c'est la vision béatifique. Notre grâce à nous, elle grandit. J'espère que la grâce que j'ai maintenant est plus grande que celle que j'ai eue le jour de mon baptême. J'espère. Elle a grandi. Dès qu'on a fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec notre Mère, dès qu'on a dit Jésus, notre grâce a grandi. Et puis toutes les prières qu'on a faites, ça les a faites bien, quoi, avec un petit peu d'attention. Notre grâce a grandi. Et elle grandit tous les jours. Normalement, ce soir, elle est plus grande que ce matin. Normalement, parce que vous avez quand même prié un tout petit peu pendant la journée, vous avez assisté avec amour à la messe. On ne peut pas assister 5 minutes avec ferveur à la messe sans que l'Esprit Saint soit là pour nous porter et donc sans que notre grâce augmente. C'est saint Thomas qui dit ça. Et c'est très beau ça. Quand on essaie de mettre un peu de ferveur, quoi, d'être un peu éveillé. C'est s'endormir, enfin, comme je te pousse, mais réveiller un peu, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, on grandit. Le Christ a eu la plénitude de la grâce dès le point de départ. grâce à nous étant imparfaite, est une semence de gloire. Dans votre grâce, vous avez le chiffre de votre vision béatifique. Semence de gloire. C'est une analogie métaphorique. Mais vous êtes ordonné à la vision béatifique. Vous êtes entièrement pris. Votre orbite, c'est la vision béatifique. Et quand vous arrêtez, vous regardez autre chose, et vous vous trompez. Vous êtes fait pour la vision béatifique. Le jour du baptême, vous êtes fait pour la vision béatifique. Et vous devez y aller tout droit, le plus vite possible. Selon le rythme de l'Esprit Saint en vous. Parce que ce n'est pas vous qui gérez votre grâce. Vous la gérez avec l'Esprit Saint. Mais c'est l'Esprit Saint qui prend l'initiative. Soyez polis et laissez l'Esprit Saint nettement tout conduire et vous accompagner et vous dites oui. Alors vous laissez le Saint-Esprit vous prendre. Donc Jésus, sa grâce atteint tout de suite le terme, la vision béatifique. C'est extraordinaire. Dans ce tout petit enfant. Vous voyez, ça doit nous donner un respect infini vis-à-vis du premier moment de la conception de l'être humain. Puisque ce premier moment de la conception d'un être humain a été Dieu. Et donc il est Dieu. C'est extraordinaire. Tellement Dieu respecte la nature humaine. Parce qu'il aurait pu. Il aurait pu. Créer ce que je disais ce matin, créer de toutes pièces un homme, c'était facile pour Dieu. Et on l'aurait admiré davantage. Il a voulu que le mystère reste caché. Pourquoi ? À cause de la rédemption. Vous comprenez que si Dieu était tombé du ciel, cette humanité sainte du Christ, oh, c'est extraordinaire, on n'aurait pas osé y toucher. Il fallait que l'humanité sainte du Christ soit cachée dans son mystère divin. Joseph a commencé. Joseph a caché Marie. Et en cachant Marie, il a caché le mystère de l'incarnation en Marie. Et toute la vie du Christ, elle est cachée. C'est pour ça que Jésus, après les premiers miracles, défend de le dire. Parce qu'il sait qu'il vient pour sauver les hommes par la croix. Alors, comprenons, la vision béatifique, elle est présente dans l'âme du Christ. Alors ce que je vous dis là, c'est Thomas d'Aquin à la suite de tous les pères de l'Église. À peu près tous. Ça a été affirmé jusqu'à la moitié de notre siècle. C'est très curieux. Notre 20e siècle est un siècle terrible pour la théologie. Je ne sais pas comment on sera regardé du côté de Dieu. Il y a à peu près 50 ans, je ne peux pas vous donner une date exacte, mais je crois, on a commencé à dire « Oh non, c'est impossible. C'est absolument impossible. Qui est la vision béatifique dans le Christ. Le Christ a dû connaître la foi, comme nous, pour être plus proche de nous. Il a dû connaître l'espérance. Donc, il n'avait pas la vision béatifique. Il était comme nous, pèlerins. Voyez, c'est parce que, comme dit Karl Rahner, un grand théologien jésuite, il est mort maintenant. C'était le grand théologien du Concile. Ça, sûrement. Karl Rahner dit textuellement, la théologie moderne, c'est le remplacement de la métaphysique au service de la foi par l'anthropologie. Voilà le tournant. Alors évidemment, si je remplace la métaphysique par l'anthropologie, je comprends très bien. Je dirais, le Christ n'avait pas la vision bénéfique. Il était croyant comme nous. Il avait l'espérance. Il avait la charité. Tandis que pour saint Thomas, le Christ était dans un état de perfection tel qu'il ne pouvait pas avoir la foi. Il était au-dessus. La foi est une épreuve. Le Fils ne peut pas être éprouvé par le Père. La foi, l'espérance est une épreuve. Ce sont les vertus caractéristiques du pèlerin. Or, le Christ est en même temps celui qui voit. Comprenso. Il est celui qui voit. Et celui qui est pèlerin avec nous. Mais saint Augustin et avant saint Augustin, on a tout de suite affirmé ça. Donc il y a toute une grande tradition, je dis bien, une grande tradition. Et puis, au milieu de ce siècle, il y a une brisure dans la tradition. Et cette brisure dans la tradition provient de l'influence de la philosophie. Qui rejette la métaphysique pour mettre à la place l'anthropologie. C'est pour ça que le pape ne cesse de dire, à chaque fois que je le vois, il me le dit, Père Philippe, maintenez la métaphysique. C'est nécessaire, absolument nécessaire. Et la dernière fois, il m'a dit, Père Philippe, où enseigne-t-on encore la vraie métaphysique? La vraie, il insistait. Je comprends très bien. Parce que s'il n'y a plus la métaphysique, on ne peut plus parler du Christ. On ne peut plus parler de Marie. Correctement. On peut encore continuer de façon descriptive, c'est sûr. On peut regarder tout l'évangile sans la métaphysique. Mais comprendre en profondeur le mystère de l'incarnation et surtout saisir l'harmonie et l'ordre qui peut exister entre la vie du Verbe et la vie de la nature humaine transformée par la grâce. Je crois que là, seule la métaphysique. Alors, comprenons bien, parallèlement à cette vision de l'âme transformée par la plénitude de grâce, et donc une vie divine dans l'âme humaine du Christ qui est parfaite. Une vie divine dans l'âme du Christ qui est capable de mériter. On distinguera donc dans le mystère de Jésus sa vie de Verbe de Dieu, donc de Fils bien-aimé, sa vie d'homme sanctifié par la grâce. Je ne dis pas sa vie de chrétien, puisqu'il est la tête. Sa vie d'homme sanctifié par la grâce, c'est-à-dire sa vie dans la vision béatifique. Le Christ est tout de suite dans la vision béatifique. et sa vie de pèlerin.
Session de théologie à Rimont, le 3 novembre 1991. 15e cours, 15h30. Père Marie-Dominique Philippe, le Christ.
Je réponds d'abord aux questions. Le Christ ayant une nature parfaite, est-ce que l'homme, et seulement l'homme en lui, qui crie sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui. C'est en raison de sa nature humaine qu'il porte toute l'iniquité du monde, l'agneau. Je vous ai dit tout à l'heure, l'acte le plus éminent que l'homme peut faire, c'est adorer dans un holocauste et dans un regard contemplatif. C'est le mystère de la croix. Et ceci relève de la nature humaine du Christ. Alors comprenons bien, c'est ce que je voulais compléter tout à l'heure. Toutes les activités de la nature humaine du Christ, toutes ces opérations vitales, l'adoration, la contemplation, c'est la vision béatifique. Toutes sont portées par le Verbe de Dieu, puisque la nature humaine est assumée par le Verbe. Alors, c'est la personne qui est responsable de toutes les activités de notre nature humaine. C'est la personne qui est principe d'unité des opérations divines et des opérations humaines transformées par la grâce et portées par le Verbe de Dieu. Alors saint Thomas dira le quad de la personne et le co de la nature humaine. Des petites expressions latines très simples et merveilleuses. Le quad, c'est le sujet responsable de toutes les activités. C'est le Verbe qui est responsable. Et le co, c'est par la nature humaine, le Verbe opère telle opération qu'il ne pourrait pas opérer directement par lui-même. Le Verbe de Dieu n'adore pas, mais par la nature humaine, il adore. Ça, c'est un sujet très délicat aujourd'hui, puisque certains théologiens d'aujourd'hui disent que le Verbe n'adore pas. Certains disent que le Christ n'a pas adoré, parce que le Verbe n'adore pas. Alors disons, le Christ a adoré parce que la nature humaine et son âme est créée par Dieu. Et c'est celui qui est créé qui adore son Créateur, qui est son Père. Donc, le quad, c'est le Verbe qui assume la nature humaine. Et la nature humaine opère diverses opérations volontaires. Humaine, transformée par la grâce, par la plénitude de grâce que je disais tout à l'heure. Donc, je reprends le texte. Le Christ ayant une nature parfaite, est-ce que l'homme, et seulement l'homme en lui, qui crie sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que dans sa nature humaine, transformé par la grâce, il peut se présenter en face du Père comme le seul responsable de tous les hommes, pécheurs. Et il vit par le fait même la conséquence du péché. Et la conséquence du péché, c'est d'être séparé de Dieu, d'être anathème. Jésus est anathème pour ses frères, pour nous. Il a vécu à la croix cette séparation. Alors disons pas, parce qu'il avait la vision béatifique, ça ne signifie rien du tout, pas du tout au contraire. L'acuité de la séparation est d'autant plus grande que l'unité avec celui qu'on est séparé est plus grande. Or l'unité était parfaite dans la vision. Il a vécu vraiment cette séparation. Alors, certains disent la vision béatifique dans le Christ à ce moment-là avait comme disparu. C'est pas la peine de dire ça. Parce que d'abord, la vision béatifique ne disparaît pas. Donc il faudrait introduire encore quelque chose de nouveau. C'est suffisant. Dans son âme humaine, il a vraiment vécu dans son âme humaine le poids du péché. Et donc, la conséquence du péché d'être anathème vis-à-vis de ses frères. Si l'âme humaine du Christ est créée dès sa conception, pourquoi l'Église n'affirme-t-elle pas qu'il en va de même pour tout être humain? Oui, là on touche un sujet extrêmement important, très délicat. Je ne peux pas, à partir du Christ, inférer, conclure la même chose pour les hommes. La nature humaine du Christ est dans un état de perfection unique, puisqu'elle est assumée par le Verbe. Alors, je ne sais pas à quel moment l'âme humaine est créée par Dieu. L'Église ne l'a jamais précisé. Ce que l'Église a précisé, c'est que l'âme humaine étant créée par Dieu, la procréation est quelque chose de sacré, puisque c'est une coopération avec Dieu. Donc elle est sacrée. Si elle est sacrée, l'homme n'a pas le droit de la considérer comme son avoir. Et donc, d'introduire comme il veut des modifications dans ce mystère. Et comme elle est sacrée, dès le premier moment de la conception, tout le petit être conçu, autre que sa mère, est tout entier dans l'intention profonde de la sagesse de Dieu, ordonner à l'âme qu'il doit recevoir, ordonner à être un homme, de sorte que si l'âme n'est pas encore présente, je crois que l'âme est créée très vite. Elle est créée très vite. Saint Thomas disait, à cause des petits Jean-Baptiste qui avaient dansé dans le sein maternel, le premier charismatique des Jean-Baptiste. Oui, ça lui en a coûté cher, hein, dans le sens que c'était rude après. Mais c'est le premier charismatique Jean-Baptiste. On ne peut pas le nier. C'est une danse charismatique dans sa main. Il a tressaillé de joie. Et sa mère, elle est toute illuminée par ça. C'est merveilleux. Et c'est Marie qui en est la source. Marie portant Jésus. Alors, au Moyen-Âge, on ne savait pas à quel moment l'âme était créée. Mais on savait que Jean-Baptiste avait déjà une âme humaine pour tressaillir. Alors on donnait des dates approximatives. Le vieil Aristote avait précisé. Et saint Thomas a repris les dates d'Aristote. Ce qu'il considérait que ce qu'il y avait de plus sage. C'était assez bas. C'était relativement tardif. Je crois qu'on peut, maintenant qu'on a des connaissances beaucoup plus précises sur les développements de l'embryon, dire que c'est très rapide. Mais je ne crois pas personnellement, mais ça c'est une opinion personnelle. Hein. C'est pas la doctrine de l'Église ne nous dit rien de précis. Elle veut simplement nous faire comprendre que ce petit être, dès le moment de sa conception, il est dans les mains de Dieu. Il est dans la lumière de la sagesse de Dieu. Et donc, ce qui est de plus grave, c'est d'aller contre l'ordre de la sagesse de Dieu. C'est plus grave d'aller contre la sagesse de Dieu que de tuer un homme. C'est beaucoup plus grave, c'est théologale. Et c'est ça qu'on devrait rappeler. Qu'on doit respecter l'ordre de la sagesse de Dieu. Et ne pas respecter l'ordre de sa sagesse de Dieu, eh bien, c'est se mettre dans une perspective qui est beaucoup plus grave, puisque ce n'est pas respecter le Créateur, même pas respecter son amour pour nous. Alors évidemment, celui qui ne croit pas, alors évidemment, il dira il ne croit pas. Mais celui qui ne croit pas en Dieu, vous savez, l'âme humaine n'est pas spirituelle. Donc tuer un homme, c'est comme tuer un animal. Monod disait déjà ça. La dignité de l'homme, c'est son âme spirituelle, créée immédiatement par Dieu. C'est ça la dignité de l'homme. Alors si on ne croit plus en Dieu, l'âme, on n'en parle plus. Au fond, on est un animal supérieur, puis tout. Alors, si on est un animal supérieur, très bien. Et on dira, mais il n'est pas encore un homme, donc c'est pas criminel. Alors, ce qui est très important, c'est d'essayer de comprendre que même si il n'est pas, on ne croit pas en Dieu, est-ce qu'on a le respect à l'égard de l'homme? Et de montrer que si on a un respect à l'égard de l'homme, que le petit embryon est tout entier ordonné à être un homme. Et par le fait même, on n'a pas le droit de supprimer cela. En le supprimant, on supprime un être humain. Alors, comment a-t-on pu affirmer que le Fils n'avait pas la vision béatifique? Saint-Jean, je suis tout à fait d'accord. Je ne fais rien que je ne vois faire par mon père. Oui, c'est sûr, mais on peut dire que c'est la science infuse. Alors que, si je regarde bien, ça implique la vision béatifique. Sauf que moi, je crois que c'est une erreur, vous comprenez, de supprimer la vision béatifique dans l'âme de Jésus. C'est un manque de dignité à l'égard de la personne du Christ. C'est oublier qu'il est le fils bien-aimé du Père. C'est pas une question, là. Je m'excuse. Alors, pourquoi le Christ, dans sa nature humaine, ne pouvait pas être éprouvé par Dieu? Oui, éprouvé par Dieu. Venez, il n'y a rien de coupable. Il est éprouvé quand il porte l'iniquité du monde. Alors là, il est éprouvé. Le Christ a été tenté par le démon. Éprouvé à la croix. Alors le Christ n'a pas connu la condition humaine. Ah, attention. La condition humaine n'a pu pas être éprouvée par Dieu. Il n'est pas inclus dans la condition humaine d'être pécheur. Jusqu'au nouvel ordre. Pour être plus homme, je pêche. C'est le raisonnement de certains. Luther était assez proche de ce raisonnement-là. Lui, il était pour recevoir davantage la miséricorde. La condition humaine implique qu'on fasse des actes humains, mais pas des péchés. Il a fait tout comme s'il la connaissait. Il n'a donc pas été totalement vrai avec l'homme. Je refuse. Il a été parfaitement homme portant notre condition humaine. Mais sa condition implique quelque chose de plus que notre condition. C'est qu'il est fils bien-aimé du Père. Et donc sa condition humaine est enveloppée tout de suite par le mystère du Verbe de Dieu. C'est pour ça que le Christ embryon est porté par le Verbe de Dieu. Et donc cet embryon, il est divin. Tout de suite. Que signifie hypostase? Oui, c'est alors le mot hypostasis. C'est le mot qui a connu la plus grande diversité dans sa signification. Hypostasis. C'est très cru, c'est très intéressant pour ceux qui sont farouchement liés à l'aspect philologique, sans voir que la signification des mots, c'est la signification habituelle, et non pas de remonter à l'origine. Hypostasis, c'est un mot grec. Hypo, ce qui se situe en dessous. Aristote, qui était fils de médecin, dit que hypostase, c'est le dépôt de l'urine. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que ça montre combien le langage humain peut varier. Or, hypostasis a pris dans la philosophie néoplatonicienne, le sens le plus noble, puisqu'il s'identifie à personne. Hypostasis, c'est la personne. Quand cette hypostasis est dans la nature raisonnable. Les trois hypostases de Plotin. L'un, l'intelligence, l'âme. Vous voyez comme on est loin du sens d'Aristote. Alors, à quel moment y a-t-il eu cette transformation? Cherchez. C'est une thèse qu'on peut faire là-dessus. Elle a beaucoup de succès. C'est vrai, je crois que c'est le mot, parmi tous les mots, qui a changé le plus. Et partie de cette expression, tout simplement, ce qui est en dessous, vous voyez, laisser de l'eau vaseuse reposer. Vous avez hypostasis, la boue. C'est hypostasis, ce qui est en dessous. Puis c'est devenu hypostase, ce qui permet à une réalité de subsister. Ce qui fait qu'une réalité subsiste. Ça a changé totalement de sens. Parce que d'un côté, c'est la situation de celui qui est en dessous. Et de l'autre, c'est la situation de celui qui est parfaitement lui-même. L'autonomie parfaite. Alors si on voit ça dans la dialectique hegelienne, vous voyez ce que ça fait. On est passé de l'esclave au patron. L'autonomie parfaite. Peut-on dire que le Christ avait conscience de sa limite? Dans ce cas, était-il vraiment pleinement homme? Le Christ savait qu'il était Dieu dans une lucidité parfaite, dans son âme humaine. C'est un des problèmes, vous savez bien, qu'on pose beaucoup aujourd'hui. Est-ce que le Christ avait conscience qu'il était Dieu? Et j'ai lu une exégèse du miracle de Cana disant ceci. Jésus ne savait pas très bien jusqu'où allait son pouvoir. Il a vu à Cana que ça réussissait. Alors vous voyez que c'est complètement en dehors. Le Christ avait la conscience qu'il était fils de Dieu, fils bien-aimé du Père. Il avait la conscience qu'étant Dieu, il était tout-puissant et que sa nature humaine était limitée. Mais que sa nature humaine avait une ouverture vers l'infini. Et que cette ouverture vers l'infini était transformée par la plénitude d'amour. Par la plénitude d'amour. La plénitude de la grâce. Je crois que Jésus avait une conscience et une lucidité infiniment plus parfaite que la nôtre. Ce qui fait comprendre combien Jésus a souffert. C'est à partir de là, maintenant je continue, que nous pourrions comprendre une étude très belle de saint Thomas, de toutes les connaissances du Christ. Alors je ne fais que les nommer, nous n'avons pas le temps de développer, puisqu'il faut quand même terminer par le mystère de la rédemption. Premièrement, la contemplation, vision béatifique. Deuxièmement, science infuse. Troisièmement, science acquise. Quatrièmement, sensation. science de vision béatifique, nous venons de voir, science infuse, parce que Jésus est tête de tous les hommes, tête de l'Église. Non, il est tête de l'Église, vous dire tête de l'Église. Et que Jésus est roi de tous les croyants pour accomplir pleinement sa tâche de bon pasteur. La science acquise. Jésus possède une science acquise expérimentale. Et cette science acquise expérimentale, c'est l'expérience des sensations. Il y avait tout cela dans l'âme de Jésus. Y a-t-il encore des questions? Il y en a des quantités, j'en suis sûr. Mais on est obligé d'aller assez vite. Je voudrais terminer par le mystère de la rédemption. Dans Saint Jean, la dernière semaine, la semaine sainte. Et c'est très curieux, les pères de l'Église étaient très sensibles à ce fait que dans l'Écriture, il nous est mentionné la première semaine du Créateur. Et au sixième jour, création de l'homme et de la femme. Deuxième semaine, la semaine du Christ, apôtre. De la rencontre avec Jean-Baptiste à Cana, comptée il y a 7 jours. Cana représente le point de départ de la vie apostolique de Jésus. Et il y a une semaine avec la rencontre de Jean-Baptiste, l'agneau. Puis troisième, la semaine sainte. Ça qui se termine à la croix. Jean d'Hercla raconte de manière très forte cette dernière semaine. Cette dernière semaine, c'est Jésus qui, dans le fond de son cœur, obéit au Père en accomplissant l'acte qui va donner un terme à toute sa vie. Sa vie temporelle, le mystère de la croix. Le mystère de la croix doit se voir dans la lumière de l'obéissance. Il obéit au Père. Il est venu pour cela. Et Saint Jean insiste, c'est pour cette heure-là qu'il est venu. Et donc, c'est là où je vais comprendre comment le mystère d'incarnation se réalise pour que le mystère de la croix soit réalisé parfaitement. Ça aille jusqu'au bout. Il ne pouvait pas se réaliser plus parfaitement. Il fallait pour cela qu'il y ait une intervention spéciale de la Providence pour faire que le corps du Christ Christ, qui était le corps du Verbe de Dieu, et donc le corps de Dieu, ne soit pas immédiatement glorifié. Il fallait que le corps du Christ connaisse toute la croissance normale d'un corps. Un corps divin n'implique pas cette croissance. Il fallait que le corps du Christ soit caché, connaisse toute cette croissance. Donc, puisse être offert à la croix. Il était offert au temple en prévision de la croix. Le corps du Christ était passible, alors que le mystère d'incarnation demanderait logiquement, selon la sagesse de Dieu, que le corps du Christ, parce qu'il est le corps d'un Dieu, soit immédiatement transformé dans la croix. Et ça, c'est très très beau de bien voir ça. Et selon la providence, le corps du Christ a été donc un corps capable de souffrir. Mais comme son âme est capable de mériter, est capable aussi de connaître la tristesse et la souffrance. En tant que pèlerin, il n'est pas dans la vision béatifique. Dans la vision béatifique, il ne pourrait pas avoir ces connaissances, y avoir cette souffrance, y avoir cette tristesse. Alors, comprenons, tout le mystère de la rédemption doit être vu sous cet aspect ultime de l'obéissance. Il obéit au Père. Alors on se pose la question, pourquoi le Père a-t-il voulu tant de souffrance? Parce que si je suis attentif au mystère de la croix, je vois que dans le mystère du Christ crucifié, il y a eu l'accumulation de toutes les morts. Jésus a connu la mort totale à la croix. Vous ne pouvez pas penser une mort plus absolue comme mort. Alors j'énumère. La croix, la mort violente. C'est la mort la plus violente qui soit, la mort de la croix, à cause des douleurs de celui qui a soif. La mort intérieure dans l'amour d'amitié, la trahison. La mort de l'ami. La mort religieuse, traitée comme un blasphémateur. Lui le fils. La mort impliquant aussi le reniement de Pierre pour montrer que tout ce qu'il avait fait avant n'y avait pas beaucoup d'effet, de résultats. Toutes les morts possibles sont là et Jésus les porte dans son amour. Pour le Père, pour le glorifier et pour nous. Et il les porte dans son amour de Père, puisqu'il nous engendre à la vie divine, à la croix. Alors on pourra regarder la croix sous ses différents aspects. Je crois qu'on doit regarder en premier lieu que cette mort faite dans l'obéissance implique la manifestation la plus parfaite de l'amour. C'est donc la grande révélation d'amour, la manifestation la plus parfaite. Pourquoi ? Parce que est offert en totalité. Et le corps du Christ étant dans une pureté absolue, ce corps ne devait pas connaître la croix. S'il l'a connu, c'est parce qu'il a pris la place du pécheur, la place de tous les pécheurs. Il a voulu porter sur lui cette iniquité du monde. Il le pouvait, parce qu'il était le Fils bien-aimé. Seul le Fils bien-aimé connaît ce que représente l'outrage de la lutte du péché d'orgueil. Seul le Fils bien-aimé pouvait comprendre l'horreur du péché d'orgueil. Le péché qui implique une séparation à l'égard de Dieu. Le péché qui implique un repliement total sur soi. Le péché qui nous met dans un état de fragilité telle qu'on ne peut plus rien mériter pour le ciel. Donc, par la croix, il connaît la misère du péché sous ses divers aspects. Et par la croix, Jésus accepte de porter l'iniquité du monde. Il accepte de connaître les misères propres à la condition humaine. Et il meurt de la manière la plus ignominieuse qui soit. Comme dit saint Thomas à la suite des pères de l'Église, dans un lieu fétide, insupportable au point de vue de l'odeur. Les pères de l'Église soulignent beaucoup ça, parce que c'était là où on laissait les cadavres. Oui. On n'enterrait pas les esclaves, les criminels, parce que c'était la peine suprême. C'est pour ça que c'est un lieu fétide. Et ça devra reprendre. Non, on ne voit pas assez combien la croix a été ignominieuse. Le rejet total de son dans cette dignité divine et humaine, le mépris souverain, déjà la flagellation, déjà le couronnement d'épines, et la croix représente ce qu'il y a d'ultime. Jésus a donc porté toutes les misères et toutes les souffrances du monde. C'est pour ça qu'on peut dire que avec le mystère de la croix, Jésus a porté toutes les souffrances du monde. Alors, c'est l'objection qu'on fait constamment. Dire, mais écoutez, quand vous regardez tout ce qui s'est passé pendant la guerre, à l'égard du peuple d'Israël, par les nazis, Jésus n'a pas souffert tout ça. Alors, il faut bien comprendre, en intensité et en qualité d'amour, une souffrance est d'autant plus violente et d'autant plus forte qu'on est plus conscient et qu'il y a plus d'amour. La grande façon de moins souffrir, c'est de moins aimer. C'est pour ça qu'on a toujours peur d'aimer. On a une sacrée frousse d'aimer. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Alors, il y a une autodéfense. L'autodéfense, c'est d'aimer moins, des quantités de motivation psychologique et prudente. Alors on aime moins. Parce que dès qu'on aime, on est livré en pâture. Alors à l'intensité du Christ dans l'amour, un amour infini et une lucidité absolue. On ne peut pas imaginer, hein. C'est un mystère la souffrance du Christ, la tristesse de l'agonie. Triste à en mourir, et la tristesse du péché. Et c'est la tristesse du péché de l'agonie qui nous fait comprendre, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? crois que c'est directement dans la ligne de l'agonie. Le Christ a pris la responsabilité intérieure de toutes les fautes de l'humanité. Il a tout porté sur lui pour que par lui, nous soyons sauvés. C'est pour ça qu'est sauvé celui qui prononce le nom de Jésus en pensant qu'il est le sauveur. Il est sauvé par sa foi en Christ. Il est sauvé par son espérance en Christ. Il est sauvé par son amour pour le Christ. Parce que Jésus a tout pris sur lui. Alors, je peux, à partir de là, préciser les diverses modalités de la croix. Mystère de manifestation d'amour. Mystère infiniment méritoire. Mystère de satisfaction et de réparation. Mystère. Mystère du rejet, de la trahison. Tout y est. Et en même temps, un acte héroïque d'amour pour le Père et pour nous. L'offrande de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous voyez, le mystère de la croix unit deux aspects extrêmes, absolument opposés. Le tragique d'un innocent condamné. Et la paix intérieure et la joie du cœur de Jésus d'offrir sa vie. L'aspect tragique temporel, c'est là le drame visible. Extérieurement, le mystère de la croix, c'est l'échec le plus terrible qui a existé dans l'univers. Puisque quelqu'un de jeune est rejeté, condamné, et que tout ce qu'il a fait semble disparaître. C'est la plus grande pauvreté, ça. Jésus a vécu le mystère de la croix dans la plus grande pauvreté. Dans cette pauvreté totale. Le pauvre des pauvres. Donc, dans un grand mérite d'amour, il a satisfait pour le péché. Il nous a rachetés. Et il nous a donné son amour. Tout cela se réalisait à Jérusalem, dans ce lieu fétide, pour qu'il puisse visiblement apparaître comme le condamné, celui qui a tout manqué, rejeté de l'humanité. À son âge, l'œuvre qu'il a entreprise va disparaître aux yeux des hommes. Oui, c'est ça qui me semble important. Pour le démon, la croix est une victoire. Pour l'Esprit Saint, la croix est une victoire. Victoire pour le démon apparente, selon le jugement humain. C'est vrai, c'est la défaite la plus totale qui soit. Et intérieurement, c'est le plus grand amour, le plus grand acte d'amour que l'homme, que la nature humaine en Jésus a connu. L'acte d'amour le plus héroïque, le plus merveilleux, qui est actuel dans le ciel. Le mystère de la croix, en tant qu'il est le suprême acte d'amour du cœur de Jésus pour glorifier. toujours et toujours actuelle. La croix, en tant que drame humain, violent, l'histoire du démon, n'est pas actuelle. C'est dans l'histoire. Et cette victoire de l'amour va se réaliser, se manifester dans le mystère de la résurrection. La résurrection, c'est la manifestation plénière de cette victoire cachée de l'amour dans le cœur du Christ à la croix. Il y a un lien nécessité entre la croix, l'holocauste du Christ et la résurrection. Un lien de nécessité, selon la sagesse de Dieu. Il fallait qu'il ressuscite. C'était une nécessité dans l'ordre de la sagesse de Dieu. Parce que, substantiellement, la croix et la gloire, c'est le même acte d'amour. C'est simplement dans sa manifestation. Vous êtes totalement différent. C'est très important parce que l'Église vit du Christ. Et le terme de la vie de l'Église doit être très proche du terme de la vie du Christ, selon l'Apocalypse. Que notre univers termine dans une victoire apparente du démon, il n'y a rien d'impossible. Pour qu'il y ait une victoire tout intérieure et tout dérive. L'Apocalypse indique ça. On doit tout faire pour que la victoire du Christ soit temporelle, humaine, visible. Il est le roi de tous les hommes. Mais nous savons que le Christ est entré dans sa gloire par la croix. Et nous savons que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et nous savons que la haine que Jésus a portée est la même que l'Église doit porter. Alors, il s'agit de contempler de plus en plus le mystère de la croix pour comprendre ce qui se passe. De la grande lumière. Et il faut comprendre le mystère de la croix comme cette grande victoire de l'amour pour comprendre le mystère de l'Eucharistie. Jésus vit pour nous le mystère de la croix. Acte d'amour, acte héroïque.